Il est 13h sur Radio Orient. Bonjour à tous. Le journal Loïc Barrière. Les titres de cette édition: 158 migrants secourus au large de la Libye par le navire affrété par SOS Méditerranée. Il y a une semaine, les policiers israéliens intervenaient lors des funérailles de la journaliste Shirin Abu Akleh. Pour l'avocat Gilles Devers, cette intervention peut relever de la Cour pénale internationale au nom de l'atteinte à la dignité. Nous l'écouterons. La Tunisie prépare un forum international sur l'investissement le mois prochain. Entretien avec Samir Saïd, le ministre tunisien de l'économie et de la planification, de passage à Paris. Enfin, en France, le nouveau gouvernement, dirigé par Elisabeth Borne, sera dévoilé cet après-midi. L'Ocean Viking a secouru hier 158 migrants au large de la Libye. Ces personnes se trouvaient à bord de deux embarcations pneumatiques impropres à la navigation, selon l'ONG SOS Méditerranée. Parmi eux se trouvaient six femmes enceintes et plusieurs enfants, dont un bébé de 3 mois. Un homme était par ailleurs blessé. Il y a une semaine, la communauté internationale était choquée par les images montrant l'intervention des policiers israéliens lors des funérailles à Jérusalem de la journaliste palestinienne Shirin Abu Akleh. Son cercueil avait failli tomber par terre. Pour Gilles Devers, avocat inscrit au barreau de la Cour pénale internationale, la mort de la journaliste peut être qualifiée d'assassinat et relevée de la CPI. Il estime aussi que la CPI peut enquêter sur ce qui s'est passé lors des obsèques. On l'écoute.
Et moi, j'avais fait le rapport, le rapprochement avec la situation d'Abu Touraya, qui était un jeune Gazaoui. C'était en octobre 2017 et c'était le début de la marche du retour. Et il était amputé des deux jambes, il était sur son fauteuil, il était aux manifestations, il avait pris une balle en plein crâne, exactement la même chose. Et la réponse était exactement la même, c'est que c'était les Palestiniens qui avaient tiré. Ensuite, on avait récupéré la balle, c'était pas une balle ceci, etc. Donc, il n'y a rien de neuf chez les criminels. Voilà. Donc ce qui est un peu nouveau, ce qui est intéressant pour l'évolution du dossier et pour la sanction du crime, c'est que cette fois-ci, il y a eu une réaction très présentable pour le moment, je dois dire, de Ramallah, vu qu'ils ont pris l'enquête en main, sous l'autorité du procureur général qui a fait procéder à une autopsie. Et l'autopsie a été a priori très bien faite, j'en ai eu quelques échos. Et une autopsie dans ce genre de circonstances permet évidemment, quand il y a un décès, on a autre chose à souhaiter que l'autopsie, mais le besoin de justice est quand même important, et les familles l'acceptent, hein. J'ai même des familles des fois qui ont accepté des exhumations, donc les Palestiniens sont très ouverts là-dessus. L'autopsie, elle permet de récupérer la balle, vu que la balle a frappé sur le casque, et donc c'est une balle israélienne. Voilà, donc ça c'est un point qui est réglé. On analyse la plaie, c'est-à-dire que la manière dont la balle rentre dans le crâne fait une plaie, et selon l'examen de cette plaie, on voit si c'est un tir à bout portant, si c'est un peu plus loin, où on peut évaluer la distance, et on évalue également la trajectoire. Donc, si c'est un tir visé à bout portant, la trajectoire elle est plane, et on retrouve tous ces éléments. Donc, c'est bien un tir direct qui a été fait par les Israéliens. Ensuite, le meurtre, c'est sur le moment même, l'assassinat, il y a une préméditation, même si elle est brève, et je pense qu'effectivement, il faut parler d'une qualification juridique d'assassinat, vu que cette personne a été visée. C'est pas dans le mouvement de l'action, et Shirin, elle a été abattue parce que c'était une femme, parce que c'était une Palestinienne, et parce que c'était une journaliste reconnue et très courageuse. Voilà, donc c'est un assassinat. Est-ce que ça devient un crime de guerre? Pour que ça devienne un crime de guerre, il faut que ça s'inscrive dans un conflit international. Bon, et là, il faut être très ferme dans l'analyse. C'est-à-dire que c'est un conflit international parce qu'Israël n'a aucun droit en Cisjordanie. À Jénine, Israël est plus puissance militaire occupante, il peut simplement, selon le droit international, avoir entreposer son armée et faire les recours pour protéger son armée. Mais il n'a aucun droit de faire l'ordre public, il n'a aucun droit de faire des assassinats. Encore plus, il n'a aucun droit de juger les affaires. C'est-à-dire que les Palestiniens qui sont jugés, vu qu'Israël peut faire un jugement s'il le veut pour ce qui concerne sa discipline, mais il ne peut pas faire un jugement pour un meurtre qu'il a commis lui-même, qui est une affaire palestinienne. C'est une Palestinienne qui est décédée sur la terre de Palestine, et la compétence, elle est palestinienne. Donc, excellente réaction du procureur général, et d'après toutes mes informations, le dossier est en train d'être transmis à la Cour pénale internationale. Alors, j'insiste un peu sur ce point, vu que il y a tout un volet qui se paraît bien, et à laquelle beaucoup de gens peuvent se laisser piéger, qui dit qu'il faut une commission internationale, voilà, indépendante et internationale. Non, pas du tout, parce que il y a déjà une enquête qui est en cours. Le 5 février 2021, la Cour pénale, elle s'est déclarée compétente parce qu'elle avait reçu mandat de l'État de Palestine. Elle a jugé que c'était un État et elle s'est déclarée compétente sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. Donc, on a une juridiction. La procureure Bensouda, elle a ouvert l'enquête au mois de mars. Elle a fait toutes les notifications et je travaille assez avec la Cour pénale internationale pour savoir que le dossier est sous enquête. C'est une enquête qui est non publique, mais c'est une enquête qui est en cours. Donc en fait, il faut que ce dossier soit géré avec des magistrats dans le cadre d'une procédure où les Palestiniens sont respectés comme des citoyens à l'égal des autres. Et cette procédure, elle existe, elle est à la Cour pénale internationale.
Que vous inspirent les images des funérailles de la journaliste qui ont fait le tour du monde et qui ont choqué la communauté internationale?
Alors tout à fait, ça a choqué tout le monde, vu que ce soit toutes les philosophies, toutes les morales, toutes les religions, personne ne peut comprendre une telle situation. Mais cette situation, c'est un crime de guerre aussi. Alors évidemment, quand on voit crime de guerre, on pense plutôt à la mort, au sang qui coule, mais le principe de dignité en tant que tel, l'atteinte au principe de dignité, est un crime de guerre. Et il est défini, donc je vous donne pas mon point de vue, moi je vous parle du droit. Il est défini par le statut de la Cour pénale internationale à l'article 8, 2, B21, atteinte à la dignité de la personne et traitement inhumain et dégradant. Il y a un texte complémentaire qu'on appelle élément de crime qui prévoit explicitement la situation des funérailles en disant que les funérailles doivent être faites dans des conditions de noblesse et de respect et que ça inclut notamment de respecter l'environnement culturel, donc enfin, particulièrement les drapeaux. Vous voyez, tout ça, c'est extrêmement clair. Et cette notion d'environnement culturel, elle est là aussi dans les actes annexes de la Cour pénale internationale. Ça renvoie par ailleurs à une très grande tradition du droit. Je peux vous citer une règle du droit international humanitaire coutumier, c'est la numéro 115, c'est l'article 130 de la 4e Convention de Genève de 1949, et c'est même un article 76 d'une Convention de Genève de 1929 qui a été remplacée, mais qui restait donc une source ancienne. Vous voyez, c'est des règles qui ont un siècle. Elles ont même davantage, vu qu'à l'époque où les scènes de combat, on se battait à l'épée en s'entretuant, il y avait régulièrement l'arrêt des combats pour faire des funérailles dignes aux personnes. Voilà. Donc Israël n'avait aucun droit pour intervenir à Jérusalem-Est, vu que Jérusalem-Est est une terre palestinienne. Israël n'y a aucune souveraineté, même s'il l'a annexée. Ça a été jugé par la Cour pénale internationale, donc ça c'est hors sujet. Voilà. Ils peuvent juste protéger leurs soldats. Ensuite, cette attaque d'un convoi funéraire pour des motifs totalement déplacés, à savoir la présence de ces drapeaux, plus de rien du tout, alors qu'on a vu cette scène qui en plus était calme, c'est évidemment une atteinte à la dignité. Et j'appelle à ce que la plainte soit également déposée à la CPI pour cette atteinte à la dignité. Si vous ne respectez même pas les morts, à ce moment-là, c'est un comportement qui fait que tout devient possible. Ce principe de dignité n'est pas du tout anecdotique. Qu'il est au contraire fondateur du droit international. Et donc, ce travail sur la dignité est essentiel, parce que sur le plan moral, évidemment, ça discrédite cette soi-disante démocratie, mais parce que c'est finalement le moteur qui permet de faire n'importe quoi, les colonisations, l'annexion, les bombardements de Gaza, et ceci et cela, vu qu'on ne respecte plus la dignité du Palestinien, qui est un demi-être humain.
L'avocat Gilles Devers, il a publié Jérusalem-Est sous la protection du droit international, un guide pour comprendre l'avancée de la procédure devant la CPI aux éditions Éric Bonnier. Le roi Abdallah II de Jordanie annonce que son demi-frère, le prince Hamza, reste assigné à résidence, une décision qui intervient plus d'un an après une tentative de déstabilisation du royaume. Le prince Hamza avait alors été accusé de mettre la monarchie en danger. Des milliers de Soudanais ont défilé hier contre le putsch du général Abdel Fattah el-Burhan. Le pouvoir a par ailleurs arrêté deux leaders du Parti communiste soudanais. Il leur est reproché d'avoir rencontré des commandants rebelles. Et puis, autre information en provenance du Liban. Le Liban a reçu une notice rouge d'Interpol visant Carlos Ghosn, ancien patron de l'alliance automobile Renault-Nissan. L'homme qui avait fui le Japon et se trouve au Liban est visé par un mandat d'arrêt international. La Tunisie prépare un forum international sur l'investissement le mois prochain. Radio Orient a reçu hier Samir Saïd, le ministre tunisien de l'économie et de la planification, qui a effectué une tournée européenne. Extrait de cette émission.
Nous organisons la 20e édition du forum Tunisian Investment Forum, le forum tunisien de l'investissement. Nous allons inviter nos amis investisseurs européens et de tous les coins du monde pour leur présenter l'ensemble du programme de réforme économique que nous sommes en train de mener et des améliorations du climat des affaires. La Tunisie, elle a un positionnement géographique exceptionnel. Et elle a particulièrement et surtout une capacité et des ressources humaines qui sont de classe mondiale. Nous produisons 10 000 ingénieurs par an et à peu près autant en IT et data scientist et tout ce qui est dans les nouvelles technologies.
Et donc une position stratégique importante. Après la crise sanitaire, on s'est aperçu que l'Europe avait eu beaucoup de problèmes à importer certains produits. Le fait que la Tunisie se trouve au centre de la Méditerranée, c'est un atout pour votre pays, notamment pour les exportations.
C'est exactement l'atout principal que présente la Tunisie, parce que après la crise que vous avez décrite, il y a une tendance maintenant lourde auprès de grands équipementiers, aux grands producteurs, de se rapprocher un peu du marché des consommateurs. Donc la position privilégiée de la Tunisie, nous sommes à moins de 2 heures ou 3 heures de vol de toutes les capitales européennes, permet à l'ensemble de ces constructeurs et des fournisseurs de produits de bénéficier de la proximité géographique et en même temps du coût relativement compétitif de la matière grise tunisienne qui bénéficie un peu de toute une infrastructure d'éducation et de formation professionnelle qui positionne la Tunisie parmi les pays les plus compétitifs en matière de ressources humaines, le facteur clé aujourd'hui du développement des entreprises.
Monsieur le ministre, vous avez évoqué les réformes qui ont été instituées depuis l'élection du président Kais Saied. Dans quelle mesure ces réformes peuvent-elles favoriser des investissements en Tunisie? Est-ce que vous pouvez nous présenter, je dirais, l'essentiel de ces réformes?
Bon, je veux me contenter des grandes lignes de la vision 2035 qui va guider un peu les travaux du plan qu'on est en train de mener et qui seront d'ailleurs pris, le plan 2023-2025 qui sera pris au mois de juin et dont on exposera durant le Tunisian Investment Forum les principales conclusions. Et on a la vision 2035 qui est prête, qui va être discutée bientôt au Conseil des ministres, qui se présente au niveau sur 5 ou 6 axes importants. Nous avons l'élément humain et de loin le facteur le plus important, l'éducation, la santé, l'épanouissement culturel et personnel, etc. Nous avons l'économie de savoir. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un début de révolution, la révolution numérique, la révolution du savoir, et la Tunisie est bien positionnée pour pouvoir contribuer dans ce développement. Nous avons l'entrepreneuriat, qui est vraiment, avec l'investissement privé, le moteur de croissance et de développement choisi en Tunisie. Et ce développement également tiendra compte de conditions climatiques, et donc il sera vert, il sera circulaire, il sera inclusif également. parce que nous ne voulons laisser personne derrière. Nous voudrions, par cette création de richesse, par une économie libéralisée et avec des potentialités qui sont épanouies, de créer une richesse qui va être répartie. Et c'est le rôle de l'État, parce que la Tunisie avait la tradition d'avoir une classe moyenne très très forte. Aujourd'hui, malheureusement, cette classe moyenne est en train de s'affaisser, et donc ça, c'est un phénomène que nous voudrions stopper. Et le rôle de l'État, c'est d'assurer cette justice sociale. Et ça, c'est pour les individus d'un côté, mais également pour les régions. Parce que nous avons les régions de l'intérieur qui n'ont pas eu leur chance de développement et leur part de soutien de l'État.
Le berceau de la révolution tunisienne.
Oui, oui, ça a été une des causes qui a amené la révolution. Et donc, ces régions-là, maintenant, travaillent intensivement sur leur plan. Et on leur a même demandé des identifier quelques activités pour lesquelles ils ont un avantage compétitif par rapport aux autres régions, et on est prêt à faire de cette région la capitale de cette activité, d'y ramener les grands projets nationaux pour créer des clusters et permettre ce développement de coller.
Alors, il y a quelques heures, vous avez rencontré les représentants du patronat français, le MEDEF. Les Français veulent investir en Tunisie dans quel domaine?
On a identifié 4 ou 5 secteurs prioritaires, je ne dirais pas prioritaires, mais qui ont des avantages pour lesquels la Tunisie a démontré qu'elle a un avantage compétitif très clair. Nous avons le secteur de l'auto, et nous avons composants auto, nous avons une tradition d'un demi-siècle maintenant de production de ce composant automobile. Nous avons l'aéronautique également, et on s'oriente de plus en plus vers les systèmes embarqués qui ont besoin, et tous les développements informatiques qui ont besoin justement de cette matière grise disponible en Tunisie. Nous avons l'industrie pharmaceutique. La Tunisie est un leader africain dans ce domaine-là. Il a été récemment choisi pour être parmi les premiers pays qui vont contribuer à la préparation et la fabrication de vaccins. Nous avons la numérisation, l'industrie numérique, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, etc., pour lequel nous avons déjà un champion qui est en train de se développer mondialement, un Stadip qui a récemment fait un partenariat avec BioNTech, la société qui a inventé le vaccin coronavirus. Et nous avons, bien sûr, l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable a des potentialités énormes en Tunisie, le solaire. On est vraiment bien positionné pour cela. L'hydrogène vert, pour lequel nous avons une stratégie, et nous avons une immense opportunité. Nous allons relier le grid italien au grid tunisien. Donc, nous allons brancher le système tunisien au système européen, et on pourra importer de l'électricité une fois cet investissement réalisé pendant l'été, parce qu'on est net importateur de l'Europe, et exporter durant l'hiver où nous avons la chance d'avoir le soleil.
Samir Saïd, le ministre tunisien de l'économie et de la planification. Il était l'invité de rencontre hier soir, émission que vous pouvez retrouver sur radioorient.com et qui sera rediffusée demain à 18h30 et dimanche à 11h. En France, le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne sera annoncé dans l'après-midi. C'est ce qu'a fait savoir l'Élysée. Le premier conseil des ministres se tiendra lundi prochain. Les deux invités de Pluriel ce vendredi à 19h et 23h, Benjamin Lucas, coordinateur national de génération et candidat de la NUPES aux législatives dans la 8e circonscription des Yvelines, et à 19h15 et 23h15, Raphaël Rosa, candidate Les Républicains dans la 8e circonscription de Moselle. N'oubliez pas votre nouvelle fréquence à Tours en DAB+. Je vous retrouve à 17h30 pour le journal. Excellente journée à tous.